Chers amis, bonjour, je m'appelle Bertrand Audéoud. Et nous allons encore une fois prier. Père, je ressens ce besoin de te demander une grâce particulière, que tu délies mes lèvres, que tu donnes des idées claires, que ta parole soit forte, que ta présence soit forte. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, notre Père. Au plus profond de nous, nous avons besoin de toi et c'est un cri que nous te faisons, que nous élevons vers toi. Nous venons de le chanter. Père, cette parole qui sort de ta bouche aujourd'hui, nous en avons besoin, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être évangélisé au plus profond de moi. Père, accompagne et parle-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais parler... Excusez-moi, je vais faire un peu de ménage. Je vais parler et baser mon discours sur un seul verset que vous connaissez tous bien, ce verset de Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. On va s'arrêter là. Et donc je vais parler, j'ai juste quelques minutes, pour vous parler de ce message extraordinaire qui nous est apporté. Et je ne vais pas prendre le verset dans sa suite comme Paul nous le donne ici. Mais je vais d'abord parler de l'Évangile. C'est le thème d'aujourd'hui, l'Évangile. L'Évangile, pourquoi faire? Comment être connecté à l'Évangile? Et je dois placer quelques bases. L'Évangile n'est pas un terme religieux à la base. L'Évangile, c'est un terme pour dire une bonne nouvelle. Vous rappelez que lors de la guerre médique, la guerre des Grecs contre les Perses sont venus pour attaquer la Grèce et se ont débarqué sur les plages de Marathon. Et les Grecs ont fait face et ont gagné. Et à un moment donné, ils ont envoyé un évangéliste, quelqu'un qui a raconté une bonne nouvelle. Et ce type a couru ses 42 kilomètres vers Athènes et a dit quoi? Nous avons gagné! Et il s'est écroulé par terre. Il en est mort d'avoir raconté une bonne nouvelle. Il en est mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais juste pour dire que bonne nouvelle, c'est un terme générique, évangile, c'est un terme générique pour dire bonne nouvelle. Mais la nouvelle que nous avons dépasse toutes les nouvelles du monde, dans toutes les cultures. C'est la bonne nouvelle. Et on voit ça dans Romains chapitre 1. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Chapitre 1, Romains chapitre 1, où il est dit que Paul a été mis à part pour l'évangile de Dieu. C'est Dieu qui nous dit, qui a couru vers nous. Et qui nous dit, j'ai une bonne nouvelle, et cette nouvelle, je vous l'ai annoncée par les prophètes depuis toujours. Je vous l'ai annoncée. Et ça, c'est une nouvelle. Mais il y a aussi le contenu de la nouvelle. Et le contenu de la nouvelle, c'est, on continue un petit peu au verset 3, il est dit, touchant son fils. C'est pas n'importe qui l'a envoyé. C'est pas un homme normal. C'est Jésus-Christ. Né de l'esprit, né de femme sous la loi, en temps convenable, à un moment donné, il a donné son propre fils. Et il est, donc ça c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu annonce une très bonne nouvelle et il vient vers nous et dit, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai donné mon fils, né de la semence de David, selon la chair, mais déterminé, fils de Dieu. Il n'y avait que lui qui pouvait nous racheter. Que lui. Et il l'a fait. Déterminé, fils de Dieu, en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Et ça, c'est la preuve que le Fils de Dieu est entré dans la mort, nous a délivrés de la mort, et la mort n'a pas pu le retenir. Et la résurrection, la vie aujourd'hui de Jésus-Christ, fait toute la différence avec une bonne nouvelle, une simple nouvelle qui peut être bonne. Bien sûr, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais celle-là dépasse toutes les nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'elle règle nos problèmes existentiels. Elle règle nos problèmes de la mort, elle règle le problème de la crainte fondamentale de notre culpabilité. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Lui-même se penche vers chacun d'entre nous. Il dit, écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai donné mon Fils, il est là, c'est lui la bonne nouvelle. Et on va maintenant pouvoir continuer à explorer en qui il est. Quelle est cette bonne nouvelle? Le contenu de la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est une personne. C'est pas un dogme. C'est pas une doctrine. C'est pas, c'est pas quelque chose, une idée à laquelle vous avez adhéré. Ça tient pas la distance. Mais il nous faut quelqu'un qui soit rentré dans la mort, qui soit ressuscité et qui soit monté au ciel, assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est Christ qui est mort, qui est aussi ressuscité, qui aussi est assis à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. C'est la bonne nouvelle. Nous vivons pour toujours. Mais je ne veux pas aller trop vite. Je n'ai pas honte de l'évangile, on parlera de la honte plus tard. Il est l'évangile, je viens d'en parler. L'évangile, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui nous est arrivée. À un moment donné, excusez-moi, je dois boire quelque chose. C'est ça la bonne nouvelle. À un moment donné, nous nous sommes détournés. Nous avons tourné le dos à une situation qui était idyllique. Dieu nous a placés dans le jardin. Dieu était là, présent avec l'homme. Dieu avait donné à l'homme des besoins et avait physiologiques et avait placé le jardin pour que l'homme puisse vivre de cela. Mais Dieu avait placé des besoins par rapport à leur vie intérieure. Et Dieu était la source qui répondait parfaitement à ses besoins. Et nous nous sommes laissés gruger, nous nous sommes laissés tromper, et nous avons tourné le dos. Et à cette situation, en fait, on a tourné le dos à cette situation, ça c'est secondaire, on a tourné le dos à Dieu. Et avec cela, il y a eu toutes sortes de conséquences. Regardez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 nous parle un peu de ses conséquences, un verset bien sûr que vous connaissez bien, Éphésiens chapitre 4, où il est dit, verset 17, ou plutôt, verset 17, le reste des nations marchent dans la vanité de leurs pensées, leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce que nous avons perdu en tournant le dos à Dieu, c'était la connaissance de Dieu. Mais il nous fallait quand même une connaissance. Mais la connaissance de Dieu, celle qui pouvait nous amener dans des chemins de vie, nous l'avons perdue. Et donc, quelqu'un disait, quand la crainte de Dieu est là, toutes les peurs sont parties. L'absence de crainte de Dieu ramène toutes les peurs. Mais l'absence de la présence de Dieu nous a fait croire toutes sortes de mensonges, nous a enfoncés dans des ornières qui nous ont submergés. La connaissance de nos pensées était tout à fait erronée. Et avec ces conséquences, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La honte est arrivée. Et puis, la culpabilité a suivi. Et puis, la colère, la dépression. L'idée de vengeance. Quand on se marche sur les pieds les uns les autres. En fin de compte, toute cette connaissance de Dieu a été mise de côté et a fait place, parce que ça a fait place à quelque chose. Mais ça a fait place à toutes sortes de comportements qui étaient déviants. Normal. Pourquoi? Parce que notre comportement est toujours lié à nos croyances. Vous pensez mal, vous allez vous comporter mal. Il nous faut la tête à l'endroit quelque part. Et l'évangile de Dieu est celui-là. Cette capacité à nous remettre en selle, de nous sortir de nos ornières. De nous sortir de nos fausses représentations de Dieu. De Jésus-Christ. De l'Esprit-Saint. De nos relations. De nos relations de couple, qui c'est qui doit dominer en fin de compte. De nos vies d'église. Parce qu'on n'est pas neutre quand on vient et on est dans nos vies d'église. L'évangile, c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu nous permet de nous remettre en selle. Et il va le faire en nous donnant le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile. Jésus-Christ est l'évangile. C'est lui le centre de l'évangile. C'est lui quand il va rencontrer quelqu'un, cette personne va être transformée. Ce qui nous manque, nous, à nous, frères et sœurs, c'est de voir la transformation qu'une rencontre entre le Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ, et une personne qui le rencontre, cette transformation. Ça nous manque. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais ça existe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, même si la France est une terre aride, l'évangile avance dans le monde comme pas possible. L'évangile avance. Mais je vais prendre quelques exemples. Je pense à la femme samaritaine. Elle rencontre le Seigneur. Vous connaissez tous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, cette femme qui était honteuse, tellement honteuse de sa propre vie? Cette femme qui était enfermée dans la honte, elle rencontre le Seigneur. Et cette rencontre, ce déclic, fait que cette femme part directement au village et parle aux hommes. Celui que tu as eu 5 maris et celui que tu as aujourd'hui, c'est pas ton mari. Oh, elle est touchée en plein cœur. Et finalement, la honte a disparu. La première chose, je suis allé un peu trop vite, mais la première chose que le Seigneur fait par l'évangile, c'est de nous redonner la vie. Qu'est-ce que nous avions perdu? Nous avions perdu la vie. Cette vie divine, cette vie que Adam et Ève avaient reçue en direct, la mort s'est installée et la vie n'était plus là. On avait tourné le dos à Dieu, la vie n'était plus là. Et Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » La vie en abondance, on va voir plus tard, mais « aient la vie ». Ce qu'une personne a besoin le plus est fondamental, parce qu'elle est née morte. Nous sommes tous nés morts. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 2, « Lorsque nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. » Sans Paul, je suis bien vivant. Non, tu n'es pas bien vivant. À un moment donné, tu étais mort. Et Jésus est venu nous donner la vie. Alors ce sont des choses que nous savons. J'ai bien conscience que je ne vous apprends rien. Mais je voudrais vous parler de cette nature de vie que nous avons reçue. C'est la vie de Dieu que nous avons reçue. À tous ceux, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais nés de Dieu. Incroyable! On est né de Dieu. Et cette puissance de vie qui est venue chez nous à notre conversion est vraiment la porte d'entrée à toutes sortes de réjouissances et de plaisirs et de communion et de satisfaction et de joie. Toutes sortes. Pourquoi? Parce que les bases sont posées. J'ai la vie et j'ai la vie de Dieu. L'apôtre Paul plus parle davantage de l'adoption. L'apôtre Jean parle davantage d'avoir été engendré par Dieu. On ne va pas parler là-dessus maintenant, mais ça c'est la base. Potentiellement, Dieu en nous donnant Jésus, et moi en ayant reçu Jésus, j'ai reçu la vie. Et cette vie ouvre toutes les portes, tous les espoirs sont permis. C'est extraordinaire. Si je suis enfant de Dieu, travaillez un petit peu là-dessus. Je suis enfant de Dieu. Je suis donc dans une relation filiale. Je ne suis pas éloigné. Dieu est devenu mon père. Dieu n'est plus ce Dieu en colère. S'il n'est plus en colère, c'est qu'il m'a mis dans sa faveur. Vous voyez, je suis en train de citer des versets partout là. Même si je ne donne pas les références. Mais Romains 5... 2 ou 3 dit que nous sommes introduits dans la faveur de Dieu, que j'ai la liberté pour parler à Dieu, tout, n'importe quand, 2h30 du matin. J'ai cette liberté d'enfant pour lui parler, que j'ai été uni à Christ. Celui qui est uni à Christ, 1 Corinthiens 6, il est un seul esprit avec lui. Mais alors marchons avec ce que nous avons. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, on se trompe quand on dit « je vais annoncer l'Évangile ». Et on va annoncer l'Évangile du salut, le pardon des péchés. C'est fondamental, c'est la porte d'entrée. Mais si vous restez là, c'est comme ce gars qu'on faisait... C'était une rencontre, un week-end, un séminaire. Et puis, on avait commencé le vendredi soir, le samedi matin, à la pause. On prend le café, tout ça, on était à peu près 80. Puis, je vois un homme, 40 ans, comme ça. Et puis, je lui dis, alors David, comment tu entends, reçois l'enseignement? Et il commence à pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais Bertrand, c'est... Hier soir, j'ai commencé à réaliser que ça fait 20 ans que j'ai accepté le Seigneur et je suis resté au pas de la porte et que je n'ai pas exploré la maison de Dieu. Toutes ces pièces, toutes ces chambres, la grâce abondante de Dieu, il y en a pour combien de temps? Il n'y en a pas seulement pour la terre, on va s'en régaler dans les cieux. Mais on a le droit de s'en régaler aujourd'hui, à condition... que nous laissions, que nous ouvrions toutes nos portes. Mais la grâce de Dieu, elle est en abondance. C'est ce que Paul dit, moi, le plus petit des apôtres. Il m'a été donné d'annoncer, aide-moi Lucien, d'annoncer les immenses richesses de Christ dans toutes les nations. Il ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi? Parce qu'il vit de ça. C'est sa vie, l'Évangile est maintenant devenu sa vie. Ensuite, regardez bien, ça c'est la porte d'entrée. Si quelqu'un reste là et dit « moi j'ai un passeport » et ça nous guette et ça a guetté notre jeunesse ça. Parce qu'on s'est satisfait de dire « voilà, mon fils, ma fille a accepté dans un camp, il a accepté le Seigneur, ah, voilà, il est safe, il est en sécurité, il a un passeport, c'est bon quoi ». Mais il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce que, voilà. Mais ça, c'est la porte d'entrée. On a tout loupé de l'Évangile si on s'arrête là. Parce qu'on a besoin d'être sauvés dans toutes nos dimensions. dans toutes les erreurs que nous avons reçues et acceptées, parce que quand on était loin de Dieu, on avait tourné le dos à Dieu, nous avons eu l'esprit obscurci. Nous avons été étrangers à la vie de Dieu, mais forcément, il y a bien des choses qui sont venues et que nous avons acceptées. Ces choses-là, elles doivent être maintenant visitées. Ce sont des ornières qui nous plombent. Et Dieu va travailler, maintenant que nous sommes son enfant ou ses enfants, eh bien, Dieu va travailler pour nous rencontrer là où il doit faire le ménage pour changer notre vision du monde, notre vision de lui-même, notre vision d'église, notre vision du couple, toutes les circonstances. Alors je prends la femme samaritaine, je viens de vous en parler. La femme samaritaine, elle est pleine de honte. Elle rencontre le Seigneur, la honte exit, part. Il rencontre Zachée. Et lui, ces fausses notions-là, cette méconnaissance de la vie divine l'avait conduit à gruger les gens. Et le Seigneur ne lui en parle pas. C'est quoi cette histoire de Jésus rencontre Zachée et l'invite dans sa maison. Aujourd'hui, je veux rester chez toi. Tiens, c'est Jésus qui dit ça. Tiens, Zachée, viens vite parce qu'aujourd'hui, je veux rester chez toi. La simple présence du Seigneur dans la maison de Zachée. Zachée qui commence. La lumière vient dans les vies, la lumière vient dans les cœurs. Et Zachée remet ses fausses notions, son mauvais rapport à l'argent en place. Il est remis en selle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je pense à Simon le pharisien. Vous savez, les pharisiens, on tape beaucoup sur les pharisiens. Mais c'était des gens qui aimaient Dieu quand même. Ils aimaient la parole. Ils aimaient tellement la parole, mais bon, dans une façon, de façon erronée. Mais et limitée. Et là, quand le Seigneur est invité par Simon, il y a cette femme pécheresse. C'est une histoire, mais extraordinaire. Cette femme pécheresse, elle qui a vécu probablement dans la prostitution, elle verse le fruit de son travail, le parfum, elle le verse sur les pieds du Seigneur. Et le Seigneur ne dit rien. Elle couvre les pieds du Seigneur de baisers, elle les suit avec ses cheveux. Et Simon dit, mais non, c'est pas possible, si tu savais qui était cette femme. Il n'a rien compris, Simon. Et là, le fait que le Seigneur soit dans sa maison, il est confronté avec ses fausses croyances. Ta justice, Simon, ta justice, elle t'emmène nulle part. Elle t'emmène nulle part. Où sont tes baisers, Simon? Elle dit, Simon, c'est dans ta tête. Toute la parole, là, c'est dans ton esprit. Mais la parole n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'amour. Et elle a tout compris, elle. Tu la juges. Moi, je vais te visiter sur le jugement que tu portes sur les autres. Et nous aussi, on a besoin d'être visités là. Parce qu'on est souvent très propre sur nous. Très propre sur nous. Et l'apôtre Paul, c'était un de ceux-là. Il dit, mais la justice, ma justice là, mais non, mais j'en ai honte de cette justice que je mettais en avant. Je l'estime comme des ordures pour gagner le Christ, le connaître lui et la puissance de sa résurrection. C'est l'évangile. Je pense à Pierre. Pierre, vous vous rappelez de la pêche miraculeuse? Amener du poisson, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, rien pris. Pour un maître pêcheur, ça c'était déjà difficile à avouer. On n'a rien pris. On était comme des jeunes, voilà, comme des bleus. Alors le Seigneur propose qu'on y jette le filet. Mais Seigneur, on a pêché. Tu sais, on connaît les affaires quand même. C'est pas toi un charpentier qui va nous apprendre. Bon, et sur ta parole, je jetterai le filet. puis, vous savez ce qui s'est passé? Le filet était plein. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit Pierre? Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Pierre, maintenant, connaît Jésus d'une autre façon. Et il se connaît lui-même d'une autre façon. Et moi, je pense que cette attitude-là, on doit la rechercher. Seigneur, révèle-toi à moi pour que je sache qui je suis et que toi, tu es toute la gloire. Mais vous savez, cette leçon du Seigneur qui a visité Pierre dans sa force, dans son orgueil, elle n'a pas suffi. Il a fallu que, quelque temps plus tard, au moment du reniement, le Seigneur le revisite. Je suis en train de vous dire là que nous tous, si nous ne pouvons pas nous arrêter à l'évangile du salut, et nous avons besoin d'être évangélisés, recherchés, visités au plus profond de nous, dans tous les domaines de notre vie, dans le domaine de ma vie de couple, de ma relation avec ma femme, de la relation à l'argent, de la relation à la sexualité, de tous ces domaines doivent être visités. Ça, c'est l'évangile. Et Dieu dit, l'apôtre Paul dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est donc, l'évangile, c'est l'évangile de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu y a révélé son Fils, et quand son Fils est révélé à quelqu'un, cette personne va automatiquement changer. Automatiquement changer. La puissance de Dieu. Est-ce que vous connaissez la puissance du regard du Père sur vous? Est-ce que vous connaissez la puissance de la vie de Jésus en vous? Est-ce que vous connaissez la puissance de l'Esprit qui vous conduit et qui vous révèle Jésus? Ça, c'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu à quiconque croit. L'Évangile ne vous donne pas la foi. Mais par la foi, vous vous laissez transformer par l'Évangile. Pas le contraire. Dieu nous donne toutes ces choses-là. Il dit, tu prends ou tu prends pas? Tu prends ou tu prends pas? La table est mise. Tu vas à table? Tout est prêt. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Tout ce qui concerne la vie de tous les jours et la relation avec Dieu. Sa divine puissance, de Pierre 1. Comme sa divine puissance, c'est un verset des plus merveilleux, nous a donné. Donc je peux prendre, et je peux prendre par la foi. On ira aussi loin que ce que nous prendrons nous-mêmes. Mais tout est là, tout est là. Encore une fois, je vous dis, la table est mise. La responsabilité de Dieu, c'est d'être la vérité. Notre responsabilité, c'est quoi? De recevoir cette vérité. Et c'est cette vérité qui va nous libérer, de nos fausses notions que nous avons acquises avant notre conversion. Mais nous, on est un petit peu piégés. Vous savez pourquoi? Excusez-moi, je vous parle comme j'ai un message dans mon cœur. Mais nous, dans les assemblées des frères, je suis un enfant d'une famille chrétienne. Mon père était fils d'une famille chrétienne, son père aussi. Mais attendez, on va de génération en génération. C'est une grande bénédiction, immense bénédiction. J'aurais pas voulu naître dans une autre famille, d'être né dans une famille chrétienne. Mais ce qui nous piège un peu, c'est que depuis tout petit, on a reçu le Seigneur. Et après, on a vécu comme ça. Puis on s'est habitué aux choses. Alors que l'Évangile est un constant renouvellement. Constant renouvellement. Et on a pas pris l'habitude d'ouvrir au Seigneur toutes les portes de notre vie. Ça fait qu'on s'est cloisonné quelque part. On s'est pas remis en question quelque part. Et on n'a pas ouvert. Alors que le Seigneur frappe à toutes nos portes. N'importe quelle porte. Que ça soit vos circonstances douloureuses, heureuses, que ça soit votre travail professionnel, que ça soit les relations de famille, que les relations d'église. Le Seigneur dit, je frappe à la porte, je frappe à la porte. Il frappe pas seulement à la porte de notre vie globale, mais à chaque détail de notre. C'est ça l'évangile qui rentre dans nos vies. C'est nous qui avons besoin d'être évangélisés. Et nous, on ouvre la porte. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? J'entrerai. J'entrerai. C'est sûr, j'entrerai. Je dois aller plus loin et je voudrais juste finir, si vous voulez. J'ai parlé de l'Évangile, j'ai parlé de la puissance de Dieu, j'ai parlé de à salut. C'est ce salut dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être sauvés dans toutes les strates de notre vie. Arrêtons de penser que je suis sauvé, c'est bon. Romains 5, 9 et 10 dit quoi? Ayant donc été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt serons-nous sauvés. Par quoi? Par sa vie. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Et il s'intéresse à votre vie et à ma vie dans tous ses détails. Seigneur, j'ai un voyage là, on fait comment tous les deux? Seigneur, ma femme là, ça va pas très bien, on fait comment tous les deux? C'est cette collaboration avec le Seigneur. On est sauvés par sa vie. Et nous, on est toujours à se débrouiller nous-mêmes. C'est là où on a besoin. En fait, nous sommes nous-mêmes notre propre problème. Notre force, on a trop de force. Et Dieu est patient. Dieu est patient. Jusqu'à ce qu'on lui dise, Seigneur, là, je ne peux pas le faire. Et on va s'apercevoir que ça ne sera pas pour les grandes choses, ça sera pour les détails. Mais c'est ça qui est passionnant. Dans tous les détails de ma vie, je suis maintenant de nouveau intégré dans cette relation à Dieu et je peux tout lui ouvrir. Je n'ai rien à lui cacher. Et lui, il est positif vis-à-vis de moi puisque je suis son enfant bien-aimé. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Je peux tout lui offrir. Parfois j'oublie, c'est pas grave. C'est pas grave. À quiconque croit, c'est à nous de prendre. C'est à nous de prendre. Maintenant revenons sur la honte. Si vous avez accepté le Seigneur, il fallait d'abord savoir que vous avez accepté un Seigneur rejeté. La honte sera toujours liée à la croix. C'est la folie de Dieu aux yeux des hommes. Une croix, il y a 2000 ans. Et nous, on sait que c'est la puissance de Dieu. Parce que la croix, le Seigneur n'est pas resté dans la croix. Il est entré dans la mort. Il a vaincu cette mort. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Il est sorti de la mort et il m'a donné la vie. C'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Donc je peux vivre aujourd'hui et aller dans des chemins de vie, prendre des bonnes décisions. Et non pas des chemins de mort. Pourquoi? Parce que celui qui marche par la chair, parce que la pensée de la chair est la mort ou c'est mortifère. Mais la pensée de l'esprit, c'est vie et paix. On est dans la vie. Et si ça brûle pas dans votre cœur, vous allez avoir honte. C'est sûr. Si vous avez juste adhéré, il y a très longtemps dans un camp, vous allez dire, ah, un jour j'ai donné ma vie au Seigneur, bon, en ce moment je fais ma propre petite vie, ben vous allez avoir honte. La honte est liée à la croix. Et la honte était liée au Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? À cause de la joie qui était devant lui, il a méprisé la honte. et à marcher sur la honte. À cause de cette relation à Dieu, à cause de la vision qu'il avait, et si justement l'évangile n'est pas cette puissance transformatrice de mon être, et si je ne vis pas des expériences avec le Seigneur, je vais avoir honte. Pourquoi l'apôtre Paul dit que je n'ai pas honte? Parce qu'il faisait, il savait qu'il avait cru, ça c'est une chose, mais il vivait cela. Vous voyez, je voudrais vous dire, ça ne suffit pas d'avoir le livre. Ça ne suffit pas d'avoir le livre. On s'est trompé quelque part. Excusez-moi de dire ça. Le livre est très important. Et je le lis et je le prie tous les jours. Et je prie sur chaque verset que je peux lire. C'est très important. Mais Dieu ne veut pas ça seulement. Il veut quoi? Il veut une relation profonde. Il veut une vraie relation avec nous. Il veut une relation vraie. Vraie, vraie, là, comme disent les Ivoiriens. Je termine en disant ceci. Excusez-moi, je vais prendre une image. Une image, et elle est très respectueuse. Et je la dis avec beaucoup d'humilité. Dieu, le Tout-Puissant. Dieu, l'Éternel. Le Fils éternel. L'Esprit éternel. Dieu, l'Éternel. De toute éternité. Excusez-moi, ne soyez pas choqués par l'image. Font une danse. Sont en relation les uns avec les autres. Dieu est amour. Donc en relation, puisque l'amour ne peut s'exprimer que dans une relation. Et il est là, dans l'amour du Fils, dans l'amour de l'Esprit, et réciproquement, et ils sont en train de se régaler de cette relation-là. Tout à coup, ils disent, faisons l'homme à notre image. Et Dieu a voulu introduire l'homme, et le jeune, et la femme, et l'enfant, et le vieillard, dans une danse avec lui. Excusez-moi, je sais que certains peuvent être choqués, mais on a besoin de cela. Pour comprendre. Tout à coup, nous, on est sortis de la danse, avec toute la catastrophe que ça a entraîné. Et Dieu, à un moment donné, a dit, mais qui enverrai-je? Qui va sauver l'homme de ma colère? Et Dieu nous a sauvés de Dieu. Dieu nous a sauvés de sa propre colère en envoyant son Fils. Mais dans quel but? Quelle est la fonction? À nous ramener dans la danse et à danser avec lui. Et dans Corinthiens, il est dit, nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, comme de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Or, nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, et moi je vous propose, non pas d'utiliser des méthodes pour annoncer l'Évangile, mais de vous laisser transformer par cette danse que vous allez faire tous les jours avec le Père, avec le Fils éternel, avec l'Esprit éternel. Dieu prouve son amour, le Fils, Dieu montre son amour, Dieu nous dit son amour, le Fils prouve son amour et l'Esprit atteste de l'amour. Et nous, nous sommes là et nous pouvons maintenant, dans cette proximité, dans cette intimité, lui ouvrir toutes nos portes. Et on va danser dans cette danse dynamique, parce que chaque journée sera différente de la journée d'avant. Et on va être dans une telle intimité qu'on ne va pas chercher, nous, des solutions. On va lui dire, Père, Père, comment tu vois les choses? Seigneur, comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses? Je me soumets à toi, je veux danser à ton rythme. Vous voyez, je ne mets pas la loi là. Mais ça va vous faire lever de bonheur, hein? Parce que vous aurez tellement de joie, tellement de plaisir d'être dans cette danse-là, dans cette intimité avec Dieu, que vous allez mettre du temps de côté. Vous allez renoncer à certaines choses à cause du plaisir de cette communion. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Ne cherchez pas à aller évangéliser. Vous risqueriez de voler quelque chose à quelqu'un, en lui imposant votre pensée. Et Je dis ça en ayant Pierre devant moi, là. Pierre, faut bien prendre ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est ne cherchez pas. Plutôt, laissez-vous transformer. Est-ce que vous savez que les musulmans convertis à Jésus-Christ ne peuvent pas parler? Mais beaucoup de gens se convertissent parce que simplement, ils sont dans cette intimité avec Dieu. Et leur comportement parle davantage. Nous devons connaître le livre, nous devons vivre le livre, nous devons être le livre. Vous êtes la lettre de Christ, le parfum de Christ pour Dieu. Merci beaucoup.